Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors nous allons laisser cette fois-ci nos troubadours et troubaristes reposer en paix et se rapprocher, bien ma foi, de notre époque. Alors pour cela, j'ai un petit livre sous les yeux qui s'intitule Périgord Quercy à Genet, du temps des marchands de paradis. Alors c'est édité aux éditions 2000 ans. En 1987. Alors sur la couverture, très fortement cartonnée, il y a une dame âgée qui vend des riflots. Alors la légende nous dit en Périgord, marchand de paradis, et ensuite en Occitan, vous calpa pas des riflards modernes. Alors les riflots, c'était en quelque sorte les copeaux des gens qui faisaient pour les sacs de baril, c'est-à-dire qu'on coupait des jeunes pousses de châtaigniers. Et avec un grand couteau, une plane, avec deux poignées à chaque bout, une plane faisait à peu près 30-40 cm de large. Et puis, on les débitait, donc ça servait, comme je disais, à faire les cerceaux pour les barriques. Et ça a été quand même une industrie importante et un petit apport d'argent pour les cultivateurs. Alors, donc voilà pour ces riflots. Et à Sarlat, autant que je puisse me souvenir, quand j'étais jeune, il y avait au moins une fois par semaine un marché pas très loin de la sous-préfecture où on vendait des riflots et puis le bout des barres qui ne servaient pas à faire ces cercles de barriques. Alors donc dans ce livre, donc portrait scène et des petits métiers, eh bien il y a la recherche et des légendes, bien sûr, c'est plein de cartes postales anciennes, qui est de Jean-Paul Malaval et la collection de Camposa de la réalisation et de Claude Baillet. Alors on va voir un peu ce qu'ils nous disent. Il y a un avant-propos avec une citation de Boris Pasternak. Alors Boris Pasternak nous dit « Personne ne fait d'histoire, on ne la voit pas plus qu'on ne voit pas l'herbe pousser. » C'est vrai qu'on peut regarder l'herbe, la voir, je vais pousser. Alors il y a un avant-propos qui s'intitule « La machine à remonter le temps ». La carte postale est une admirable machine à remonter le temps. Elle passionne les historiens et les collectionneurs qui lui confèrent une valeur marchande liée au fait qu'elle constituerait les dernières traces tangibles d'un temps perdu. Ce qui est bien vrai. Ces documents, à les regarder de près à la loupe, nous en apprennent terriblement sur la manière dont nos arrière-grands-parents se vêtaient, vivaient, assumaient la peine quotidienne, se distrayaient. Il est vrai que cette lecture du détail est parfois plus profitable que la lecture de maintes monographies. Périgord Quercy à Genet, au temps des marchands de paradis, est constitué d'un grand choix de photographies sur les caractères de ces femmes, de ces hommes de 1900, sur des scènes de foire, de marché, de petits métiers, scènes encore des plaisirs et des jours de labeur. Alors cet avant-propos continue ici en feuilletant ce livre, en perçoit nettement les stigmates de la fin d'une époque rude, celle des nénoisilleuses. Des noisilleuses, c'est des gens qui s'occupaient des noix. Et des marchands de paradis, donc le paradis, on l'a dit, c'est des riflots. La centenaire travaillait à la tresse pour les canotiers de Bellamy, ce héros léger de Maupassant. Et la naissance de civilisation industrielle avec les fumées diaboliques de l'usine de Fumel, avec les premiers clichés des jeunes apprentis de l'école de commerce et d'industrie d'Agen. Ceux-là ont déjà un pied dans le XXe siècle, ce sont des grands-pères que nous retrouverons à Verdun avant de lire leur nom sur les premiers monuments aux morts, évidemment, inaugurés. Alors pour l'instant, ils rêvent insouciants sur les berges de la Garonne où l'on pêche les aloses, s'enthousiasment pour l'âge d'or des montgolfières, applaudissent les exploits de Védrine, de Fischer, d'Issartier, ces héros modernes, bien sûr, pour l'aviation, qui défient la mort. Je crois qu'il y en a qui était passé, peut-être Védrine, sous l'Arc de Triomphe, à Paris. Alors les années de la belle époque semblent décidément ne jamais devoir finir, pourtant l'instant où vacille les temps immobiles éveille ce spleen proustien né des bonheurs qui se consument trop vite. Alors pour les producteurs de prunes dentes, le temps est suspendu aux odeurs s'échappant des fours en briques rouges où cuisent les pruneaux. Cela conserveront le goût sucré d'un été interminable. Est-il soudain arrivé malheur à notre civilisation, après 1918, elle deviendra encore plus difficile de comprendre ce siècle. Les photographies ont rempli d'un seul coup une ride. C'est ce qui aujourd'hui nous enchante et nous fascine à la fois, mais il est comme d'avertissement singulier. À Moncabeau, l'esprit gascon se cristallise sur la pierre de la vérité, dadaïste, pataphysicien, avant l'heure. Ici, on invite l'art de se moquer du temps et on proclame les mérites du cynisme et de la dérision comme un art de vivre. Malgré tous les efforts de ces braves gens, n'arriveront pas à monter à la suite des événements futurs. Évidemment, un futur, c'est pas très brillant. Alors, pour feuilleter donc ce livre qui est un peu, qui est en, comment on appelle ça, je crois, en format italien. Voilà. Et donc, je rappelle qu'il est, il est fait par Claude Baillet et Jean-Paul Malaval, qui remercie d'ailleurs les personnes qui ont contribué à l'iconographie. Alors pour le, bon pour le Périgord, puisque comme je l'ai dit au début, il y a le Périgord, le Quercy et la Genêt, qui ne sont pas très loin. Donc il y a le gavage. Alors bien sûr, ce sont les personnes âgées de la ferme qui gavaient les oies. Alors il y a une légende sur la carte postale, il me tarde qu'elle soit grasse, c'est-à-dire loi, pour ne plus avoir besoin de la gaver, les abats et les quartiers d'oie nous feront bien régaler. C'est vrai qu'un bon quartier d'oie, c'est pas mauvais, avec les pommes de terre sarladaises par exemple. Alors, bien sûr, sous cette carte postale, il y a une légende, le gavage. Le gavage des oies et des canards permet d'obtenir des foies gras prisés déjà par les Romains. La gaveuse prend l'oie entre ses genoux, lui ouvre le bec et introduit un entonnoir à manivelle, un gourzadour, pour faire pénétrer de force dans le tube digestif le maïs mis auparavant à gonfler 20 à 30 minutes dans de l'eau bouillante. Avec les doigts, la gaveuse facilite l'ingestion le long du cou, afin d'éviter surtout que l'animal ne s'étouffe. Alors, ce travail journalier prend des heures de patience et d'attention. C'est à ce prix que l'on obtient un de ces gros foies sirotiques, saturés de graisse, qui font la joie des gourmets. Alors, bien sûr, il y avait cet entonnoir qui, à manivelle ou avec un bâton, poussait bien sûr le maïs et de temps en temps, la dame, elle faisait descendre le maïs dans le grand coup de l'oie. Voilà, alors ensuite, on va continuer un tout petit peu. À Mussidan, on va faire un peu le tour du Périgord. À Mussidan, alors il est dit près de l'île, c'est une carte postale où on voit bien sûr la rue principale de Mussidan avec l'église dans le fond, et de chaque côté de la rue, ben, il y a des gens qui posent, des hommes, des femmes, des enfants également, leur habillé en marin, voilà, bon c'est assez plaisant à regarder. Voilà ce que nous dit près de l'île. Avec ses 3000 habitants au début du siècle, Mussidan bénéficie d'un essor industriel de par sa position géographique dans une large vallée au sud d'une boucle de la rivière Liste. Ce cliché premier 1900 saisit en enfilade la terre principale et la plus vivante de la cité, l'avenue Gambetta. Les figurants dimanchés posent sur cette photo et attendent le déclic qui les immortalisera. Comme si le temps, quelques secondes, allait s'arrêter, la carte postale, image à remonter le temps, nous appelle à rêver, par exemple, à avancer dans cette avenue-là, juste au milieu des deux groupes et déranger cet ordre imposé par le photographe. Oui, il y a quand même beaucoup de monde hein, qui posait. Donc, c'était Mussidan, et bien sûr, il y a Périgueux. Alors, Périgueux, ben, il y avait les chais et les veines de la Dordogne. Alors, les veines de la Dordogne ont acquis une grande renommée, ce sont les seuls à pouvoir être coupés avec des cépages bordelais. Les crues réputées sur le mont Basillac, vin prisé en Angleterre, sucré et liquoreux, servis pour accompagner les desserts, mais aussi les vins de Sigoulès, d'Issijac, d'Aimé, les vins blancs de Montravel, de la Rosette, les vins rouges et du Pécharmant. Ce qui est un des... Tout ça, ce sont des très bons vins, évidemment. Au milieu du siècle dernier, 50-60 000 hectares sont plantés et la production avoisine les 100 000 hectolitres, l'équivalent de la récolte actuelle. Mais il y aura bien sûr les calamités qui déciment les vignobles, entre autres le phylloxéra. En 1907, la révolte gronde et Clémenceau tentera de mater dans le midi les colères des vignerons. Finalement, deux lois seront votées. Une première, le 29 juin 1907, concernera le mouillage des vins et les abus de sucrage. une seconde 13 juillet relative à la circulation des vins et au régime des spiritueux. Ces dispositions permettront de rétablir la situation désespérée des vignerons. À la période des vendanges, une population de saisonniers se déplace du Haut-Périgord vers le Bas, travaillant le plus souvent juste pour la nourriture, hébergés dans des conditions les plus précaires, dormant dans les granges à foin. Bon, ça s'était quand même amélioré. Ça s'était quand même amélioré par la suite. Alors, en continuant un peu, ben on va arriver avec l'abbé Chabot. Alors l'abbé Chabot, c'est une personnalité du Périgord et notamment de Périgueux. Alors, il y a beaucoup de cartes postales d'ailleurs qui le représentent dans ses activités. Et là, il y a une carte postale où il y a marqué par Bacchus, le dieu des poivrons, mon vin n'est pas pour des bigots, mince, s'ils ont soif, qu'ils boivent l'eau bénite, rien qu'au bon bougre, je fais prendre la cuite. Voilà, alors il y avait une boutique qui s'appelait Chez le Curé, où l'on vendait beaucoup, beaucoup de choses, et notamment, on pouvait boire un petit coup, c'est-à-dire un verre de rouge. Alors, c'est un abbé quand même anticonformiste. L'abbé Noé Chabot de Périgueux est une figure de prêtre anticonformiste. Il a édité une série de cartes postales, souvent un tantinet grivoise, mais toujours teinté d'un humour décapant, reléguant les vieilles imageries de saintes poivrées, de strass au placard, des sacristies poussiéreuses. Voilà. Pas si toutes les sacristies sont poussiéreuses, mais c'était bien possible. Alors, Noé Chabot, alors, il y a une entrée postale où il sert à boire à des militaires. Alors, bien sûr, il y a une légende, buvons, trinquons, joyeux soldats du 50e. Le 50e était le régiment basé à Périgueux. À vos amours, au bon monsieur Chéron, qui vous aime, cher fantassin, pour que moins lourd soit votre sac, mettez dans vos bidons du vrai Montbazillac, pour bien que le temps passe et vous donne la classe, soyez de bons buveurs, soyez d'un droit tireur, vive la classe. Et c'est signé, bien sûr, l'abbé Chabot à Périgueux. Alors, avec cette carte postale, il y a une légende, la célébrité du curé Chabot à Pignon-sur-Rue dispose d'un magasin à Périgueux, chez le curé, où l'on vend des vins fins et spiritueux. Parmi les cartes postales et articles pour fumeurs, le ballon de Montbazillac supérieur vaut 10 centimes et Bigot et Bigot sont priés de rester à la porte. Le curé leur réserve ses faveurs seulement à l'église. Alors Noé Chabot se révèle, faute d'être un bon rimailleur, un metteur en scène génial, un publiciste performant, comme on dirait aujourd'hui. Alors, il y a un livre d'ailleurs de cartes postales qui lui est consacré. On en reparlera peut-être un de ces jours. Alors, il y a bien sûr les dénoisilleuses, comme l'on disait tout à l'heure, et bien sûr qui s'occupaient des noix. Alors, ben on va partir dans le Lot, il y a un petit peu dans le Lot, illustré à Gourdon, c'est pas très loin, dénoisilleuses de noix. Donc on cassait les noix avec un petit maillet en bois et on enlevait les cerneaux. C'était quand même une activité, ma foi, lucrative. Alors, dénoisilleuses, dénoisées, c'est l'occasion de se retrouver entre gens du même village. Plus souvent, cette occupation remplit plusieurs veillées. Ainsi écrit Isabelle Maudisson dans son livre Le Roc, un village en Quercy. On dénoisait deux ou trois soirs, alors on se rassemblait, une ou deux cassaient les noix et les autres dénoisaient. Et après, quand la veillée était finie, on mangeait les châtaignes. C'est pas bourré le soir. Hein. On laissait cuire les châtaignes, on les portait à table et on buvait. Des fois, quand il y avait des jeunes, ils dansaient un petit peu, blaguaient, faisaient des jeux, racontaient des histoires, des contes. C'était très gai, c'était attirant, c'était quelque chose qu'on attendait. Mais maintenant, cela ne se fait plus. Évidemment, mais je me rappelle dans les petites rues, à Sarlat, hein, mais il y avait carrément dans la rue une personne qui cassait des noix, et que des noix cassées dans une caisse, et ensuite les caisses étaient apportées ou le soir pour sortir les cerneaux. Voilà. Alors on va arrêter là avec les noisilleuses donc de Gourdon, qui sont toutes proches, et même enfin moi je vous dis à la semaine prochaine, on continuera peut-être de voir ce petit lit Périgord Quercy à Genet, autant des marchands de paradis. Voilà, bonne semaine et n'ayez pas trop chaud.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.